Chapitre 7. Triomphe de l'orgueil. Les trois sœurs réunies dans la chambre de Camilla tenaient un nouveau conseil quand Molly Mill entra, les yeux effarés, avec la réponse de Clarendel et la triste nouvelle que Tommy, par un accident qu'il n'avait pu prévenir, avait crevé le cheval qu'elle avait emprunté pour ce message au palefrenier. Une épouvante égale glaça les trois sœurs. De quel compte appuyer l'annonce de cet accident qui devait être faite à Sir Hugh, à Edgar, à toute la maison? La dette de Lionel, la correspondance avec Sir Sedley, l'espérance du jeune baronnet? Les sœurs étaient au désespoir. On envoya chercher Jacob pour lui raconter toute l'affaire et lui demander son assistance. Jacob allait se coucher, il se rendit à l'invitation de Camilla. Mais quand on l'eut instruit, il devint si furieux de la perte du cheval et de la hardiesse du palefrenier qu'il avait prêté sans permission, qu'il ne voulait entendre en rien, et menaçait de porter ses plaintes à son maître contre ce garçon et Molly Mill. Cependant, sa colère ne put tenir contre l'éloquence de ses trois jeunes maîtresses. C'est le nom que tous les domestiques de Clèves donnaient à toutes les nièces de Sir Hugh. Il adorait son maître et toute la jeune famille. Elles le prièrent d'acheter un autre cheval, aussi ressemblant qu'il serait possible, et de ne l'employer sous les yeux de Sir Hugh que lorsqu'elles auraient pu lui faire part de toute cette malheureuse aventure. Ce qui serait d'autant moins difficile que le baronnet visitait rarement son écurie depuis sa chute, parce que sa mélancolie redoublait toujours à la vue de ses chevaux. Il y avait le lendemain une foire dans le voisinage. Jacob promit de s'y rendre et d'y chercher un cheval. Elles lui demandèrent alors combien le cheval pouvait coûter. « Le pauvre Jones, dit-il, avait coûté 40 livres sterling. » Camilla jeta les hauts cris. Eugénia, dont l'esprit était plus présent, remit la chose au lendemain et dit à Molly Mill d'aller l'attendre dans sa chambre. « Que puis-je faire à présent ? » s'écria Camilla. « Je ne voudrais pas ajouter l'histoire de cette énorme dépense à celle que je lui coûte déjà. » Non, pour tout l'or du monde, je ne puis souffrir de commencer ma carrière par tant d'humiliation. Je dois déjà 5 guinées à Miss Risalberry, le trouble de mes esprits ne m'a pas permis d'en parler à mon oncle depuis mon retour, et j'ai laissé des dettes à Tunbridge qui probablement absorberont mon premier quartier. Ma chère Camilla, si ces 3 guinées, dit Lavinia, peuvent vous être de quelque secours, les voilà. Mais qu'est-ce que tout cela ? Ma part ne m'a jamais paru si petite jusqu'à présent. Nous savons toutes que notre bon père n'est pas en état d'en faire davantage. » Eugénia redescendit de chez elle, et, mettant 20 guinées dans la main de Camilla, « Voici, ma chère sœur, dit-elle, tout ce que je possède. Mais Jacob est riche et bon. Jacob se fera sûrement un plaisir d'avancer le reste pour nous, et je le rembourserai bientôt, car mon oncle a voulu me faire un présent considérable que maintenant je ne refuserai plus. » Camilla se mit à pleurer et, se jetant à leur cou, « Oh, mes sœurs, s'écria-t-elle, quelle bonté! Mais puis-je en user sans injustice? Vos 3 guinées, ma Lavinia, tout ce que vous avez, et je pourrais les prendre? Ne me faites pas regretter de ne pas en avoir plus, ma chère Camilla. Mon oncle, j'en suis sûre, ne m'oubliera pas dans les circonstances qui s'approchent. Ainsi, puis-je jamais faire un meilleur usage de mes épargnes? Vous êtes toutes deux la bonté même, et vous, ma chère Eugénia, quoique plus riche, quoique vous ayez droit à beaucoup plus. » Oui, je suis plus riche, reprit Eugénia, et il n'y a que des sœurs aussi bonnes que les miennes qui puissent me le pardonner. Mais que tout ce que je possède soit commun entre nous, non seulement aujourd'hui, mais... » Elle s'arrêta, frappée de l'image qu'elle allait présenter, et s'écria, « Oh, longtemps, de longtemps, puissé-je ne montrer à mes sœurs tout ce que je sens pour elles. Elles croiront à la sincérité de ce vœu, j'en suis sûre, et c'est là mon plus grand bonheur. » Cette image les frappa toutes à l'instant jusqu'au fond du cœur. Leurs yeux se mouillèrent, une tristesse morne et subite fit disparaître tout autre sentiment. Elles soupirèrent aussi profondément et se regardèrent avec tristesse, comme si l'excellent oncle leur eût été ravi. Le lendemain, de bonne heure, Camilla, 20 guinées à la main, avec la promesse du surplus avant peu, fit appeler Jacob, qu'elle chargea de remplacer le pauvre Jones. Ensuite, elle demanda la voiture de son oncle et la permission de son père pour se rendre chez Miss Risalberry, dont elle avait appris le retour. Ils y consentirent. Elle partit avant 8 heures, évitant d'entrer au salon, dans la peur d'y rencontrer Edgar. Ce petit voyage fut terrible pour elle. Son imagination alarmée lui représentait d'avance le désespoir de Sœur Sedley. Elle se reprochait les paroles, les regards dont elle avait bien innocemment encouragé ses prétentions. Sa dernière lettre était écrite du style de toutes les autres, c'est-à-dire avec l'assurance du succès. Comment donc osait-elle lui déclarer qu'il s'était abusé? Mistress Albery n'était pas encore levée. Camilla dit qu'elle allait faire un tour de jardin jusqu'à ce que Mistress fût descendue. Elle ne fut point fâchée de ne pas l'avoir vue. Elle la craignait encore plus que Sir Sedley lui-même, qu'elle espérait trouver seule. Néanmoins, elle fut une grande heure à l'attendre, tourmentée des soupçons que son absence pourrait donner à Mandelbert, et de la crainte qu'une nouvelle anticipée n'eût instruit Sir Sedley, dont elle se représentait le chagrin et la fureur. Cette idée l'occupait péniblement lorsqu'elle le vit entrer dans le jardin. Alors toute sa présence d'esprit l'abandonna. Elle regarda autour d'elle si elle ne voyait pas quelque issue pour se sauver. Mais l'abord de Sir Sedley fut trop prompt pour qu'elle pût l'éviter. Tremblante, n'osant le regarder, elle tint ses yeux baissés jusqu'au moment où Sedley l'aborda. Que dut penser le présomptueux Sir Sedley? Cette apparence de tristesse lui parut de l'augure le plus flatteur. Animé d'une confiance qui touchait de bien près à l'arrogance, il se plaint de tomber dans un piège dont il ne pourra s'échapper. Il la contemple, il triomphe, il jouit en silence de sa confusion. « Ah, beauté tyrannique » s'écrie-t-il. « Si ces instants n'étaient pas sans prix, de quels termes assez forts pourrais-je me servir pour vous reprocher l'abus inouï que vous faites de votre pouvoir ?» Alors il saisit sa main presque de force. Elle se débat vainement pour se débarrasser. « Non, non » s'écria-t-il, « belle inhumaine, vous êtes ma captive et vous serez punie de vos inhumanités. » Alors, sans égard pour ses efforts, il s'obstine sur cette main, il la dévore de baisers, en dépit de sa résistance, de ses prières, de son courroux, quand tout à coup, elle jette un cri perçant, et Sedley s'arrête. Surpris, il reste immobile devant elle. Il semble interroger les traits de son visage, où se peint une émotion convulsive. Mais il en voit bientôt la cause dans ses yeux épouvantés et dirigés fixement vers un objet. Cet objet, c'est Edgar Mandelbert qui paraît au bout de l'allée, à quelques pas du lieu de la scène. Pâle et consterné, Mandelbert semblait privé de sentiments. Camilla l'aperçut à l'instant qu'elle leva les yeux et son cœur battit d'effroi. Clarendel, étonné de ce qu'il voyait, ne sachant que penser, fit une légère inclination de tête et se retira. Edgar s'avança de quelques pas et, s'adressant à Camilla, « Sir Hugh, lui dit-il, m'a recommandé de vous suivre, Miss Tyrold, pour vous informer que Lindmer vient d'arriver. » Il n'ajouta rien de plus, ne daigna point regarder Sir Sedley, se hâta de remonter à cheval et s'enfuit au galop. Camilla le suivit des yeux tant qu'elle put le voir, les mains étendues vers lui, déplorant son départ, sa méprise, son ressentiment et sans avoir le courage de le rappeler. Sedley, s'apercevant de loin qu'elle ne bougeait ni ne parlait, s'approcha d'elle et lui dit « Belle incompréhensible !» Il voulait encore lui prendre la main, mais trop pénétrée de sa situation, elle lui dit avec une sorte de dignité mêlée de beaucoup d'agitation « Sir Sedley, si j'ai quelque part à votre méprise, j'en rougis. Mais permettez-moi de m'expliquer. Je ne puis recevoir vos lettres, je ne puis y répondre. Vous ne devez plus me parler. Sir Sedley, vous ne devez plus songer à moi. » « Affreux, affreux » s'écria-t-il, « inhumaine, vous me rendez malheureux au-delà de ce qu'on peut croire. »« Je ne peux vous exprimer combien j'en suis fâché, mais... »« Vous me tuez, vous m'anéantissez, vous m'outragez. »« Que voulez-vous dire, monsieur ?»« Que vous m'accablez, beauté barbare, en m'attribuant quelques prétentions qui soient de nature à m'attirer de votre part un refus. » Totalement confondue de le trouver, tout à coup, si désintéressée dans ses vues, elle se dit avec indignation « Et c'est pour un être de cette espèce que j'exposais toutes mes espérances, tout mon bonheur !» Camilla rougit, passa devant Clarendel, chargea le domestique de l'excuser auprès de Mistress Albery, de lui dire qu'elle venait d'apprendre l'arrivée d'un de ses proches parents et qu'elle était très fâchée de partir sans l'avoir. Sœur Sedley la suivit sans empressement, sans chercher à la retenir, en la priant indolemment de l'entendre. Mais il ne dit rien qui méritât la moindre réponse. Piqué jusqu'au vif, en réfléchissant que Mandelbert l'emportait sur lui dans le cœur de Camilla, Sedley ne pouvait pardonner l'affront fait à son orgueil. Il se mit à chanter hautement un air d'opéra jusqu'à ce qu'il ne vit plus la voiture de Sir Hugh. Son phaéton prit le chemin de Clarendelle. Il y fit préparer sa chaise de poste et dans moins d'une heure, il partit pour faire un tour aux Hébrides.